Conférence de fin d'année à Fountain Valley, décembre 2021. Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi dans le livre d'Hébreux, partie 3, chapitre 11 à 13. Message 5. Seigneur, nous te louons pour ta parole. Nous prions que tu nous aides à comprendre. Renouvelle notre compréhension, notre intelligence. Nous prions que ta parole soit plus tranchante qu'une épée aiguë à deux tranchants, qu'elle coupe au travers de nous, qu'elle coupe dans nos cœurs. Le livre d'Hébreux est un magnifique livre parce qu'il ressemble à un sommaire de toute la parole. Tu veux comprendre ce que signifie tout ce chapitre, en fait, tu es obligé de lire la parole. C'est vraiment comme un sommaire. Donc on revient au chapitre 12, à cette course et comment la courir. C'est pas juste une question de courir la course, mais il est question de savoir comment la courir. Et ce chapitre est très pratique pour nous montrer comment pour atteindre le but. Parce que si on te dit d'atteindre le but mais qu'on te dit pas comment, c'est pas bon. Donc ne sois pas découragé parce que ce n'est pas facile d'atteindre ce but. Il n'est pas facile ce but. Rien n'est simple. Tu as achever tes études d'architecture, est-ce que c'était facile? Comment as-tu réussi? Tu as persévéré. C'est ça le but. Sans endurance, tu abandonnes. J'ai vu tellement de personnes abandonner au milieu du chemin. Si tu abandonnes, tu n'as rien. Si tu abandonnes, la dernière année de tes études, est-ce que tu crois qu'ils vont juste te donner un tiers de ton diplôme? Tu crois qu'ils vont te donner le tiers de ton diplôme puisque tu as quand même fait le début? Non, tu n'obtiens rien. Même si tu as fait 4 ans, mais si tu abandonnes la cinquième année, pendant 4 ans, tu as quand même appris quelque chose. Mais c'est pas suffisant. Donc si on abandonne, d'autant plus si près de la fin, on n'a rien. C'est pour ça que le livre d'Hébreux nous donne tellement d'avertissements. N'abandonne pas, ne reviens pas en arrière, mais cours avec endurance. Si tu abandonnes, tu n'as rien. Ne quitte pas, n'abandonne pas. Considérons le Seigneur. Lui n'a pas abandonné. Imaginez s'il avait abandonné. Surtout au moment d'aller à la croix. S'il avait dit « Oh non, j'arrive pas. » Ne crois pas que c'était facile pour lui. Mais il a même dit dans le jardin de Gethsémané « Seigneur, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. » Il était un homme. Il est devenu un homme juste comme toi et moi. Néanmoins, pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. C'est tellement magnifique. Il a fini la course. Donc si on voit cela, j'espère que nous ne deviendrons pas découragés après tant d'années. Louez le Seigneur, après tant d'années, nous sommes encore là. Est-ce que c'est pas magnifique? Nous n'avons pas abandonné. Et j'espère que nous n'allons pas abandonner, mais que nous allons continuer jusqu'à ce que le Seigneur vienne. C'est très important. Et ensuite, il dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Hébreux 11, verset 4. 12, verset 4, pardon. Ne croyez pas que ce verset-là soit facile à comprendre. Est-ce qu'on se bat contre la chair et le sang? Il y a tellement de tentations. As-tu appris à dire non? Non, je ne vais pas faire cela. Non, je ne vais pas te donner cela. Est-ce qu'on a appris à dire non? Est-ce qu'on a appris à tenir ferme contre la tentation et le péché? Ça, c'est la pratique. Qu'est-ce que ça signifie de résister? Ça signifie qu'il y a un combat. Dans tout ce que tu fais, il y a une bataille. Il y a toujours un combat. Si au foot, tu laisses juste le premier qui vient pour te prendre la balle, tu lui dis « Ah d'accord, je m'en vais, je vais de côté. » Mais non, ton but c'est de garder la balle et que personne ne te la prenne. Tu vas courir pour que la personne ne te prenne pas la balle. Qu'en est-il de résister contre le péché? Il dit même jusqu'au sang. Ses frères, ils ont résisté. Ils n'ont pas résisté jusqu'au sang. Martyr est le même mot que témoin. C'est le même mot. Mais sinon, si dès qu'ils te battent, tu abandonnes, alors tu vas pas devenir un martyr. Mais le témoin et le martyr sont la même chose. Tu ne veux pas que les gens soient perdus et périssent. En luttant contre le péché. Et là, en fait, il est personnifié, c'est contre Satan, en fait. C'est pour ça que Paul et Pierre nous disent résister à l'ennemi, résister à Satan. Est-ce qu'ils disent de résister à Satan? Non. Il dit, s'il est juste derrière toi, c'est déjà trop près, mais fuis. Pour être loin de Satan. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Quel parent va juste laisser ses enfants être attrapés dans un piège? Est-ce que tu, Naomi, tu vas juste laisser tes enfants être pris dans un piège? Non, heureusement, tu ne vas pas faire une telle chose. Mais on peut voir vraiment qu'on lutte contre Satan, contre les puissances des ténèbres aujourd'hui. Non, ce n'est pas normal. Ne croyons pas que c'est normal. Rien n'est normal. Si tu as des yeux pour voir. Les gens n'avaient pas des yeux pour voir. Mais le Seigneur a vu, il voyait. Mais quand le Seigneur est venu, lui il voyait que les religieux étaient une génération de vipères. Il leur a dit, Satan est votre père, le diable est votre père, pas Abraham. Race de vipère. Je crois que si j'avais été là à cette époque, j'aurais dit au Seigneur, quoi, mais de quoi tu parles? Eux, ils voyaient, ils croyaient que le judaïsme était bien. Mais même Jean-Baptiste, en fait, quand il les a vus arriver, il a dit, vous, bande de vipères, portez d'abord du fruit. Est-ce que tu crois que Jean-Baptiste était un homme sympa? Il était un homme gentil mais sérieux. C'était un courageux. Est-ce que t'es une personne gentille? Est-ce que t'es juste sympa? Ça dépend de la situation, n'est-ce pas? Ça dépend de la situation. Mais vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Croyez que tous ces problèmes, Dieu emploie tous les problèmes. Est-ce qu'on se laisse décourager par ces problèmes? Parce qu'en fait, Dieu les utilise pour nous transformer. Dieu utilise ces difficultés pour nous enseigner. Sinon, comment allons-nous apprendre? On ne va pas apprendre juste par doctrine, mais on apprend par l'expérience. Même si tu as fini tes études d'architecture, est-ce que tu crois vraiment que tu peux bâtir une maison directe? Vas-y, s'il te plaît, bâtis-moi une maison. Construis-moi une maison. T'es mon ami, construis-moi une maison. Quoi? Mais j'ai cru que tu étais diplômé. Surtout pratiquement. Tu as surtout besoin de pratique. Tu peux pas croire que juste en lisant la parole, ça va suffire pour croire. Si tu viens d'être diplômé de la médecine, tu vas pas avoir le moindre patient parce qu'en fait, tu n'as pas d'expérience, même si tu es diplômé. Mais chacun de nous, quand il a besoin d'aller voir un médecin, va chez le meilleur spécialiste, le meilleur praticien. Sinon, t'as peur qu'il va juste découper ton corps sans savoir comment le recoudre à la fin. Tu as des gros problèmes s'il n'a pas de pratique. La pratique est importante, spirituellement. C'est pas juste une question de savoir et de lire beaucoup de livres, mais c'est vraiment d'aller au travers de cette exhortation, au travers des difficultés, des problèmes et des challenges pratiques dans notre vie quotidienne. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Juste avant, dit d'endurer et d'aller au travers de la honte. Et tout ça, en fait, c'est la manière dont Dieu nous châtie. Dans ta famille, il y a juste quelqu'un qui dit une petite phrase et tout de suite tu exploses, tel un volcan. On est des chrétiens explosifs. Est-ce que tu es un chrétien explosif? Ça veut dire que la moindre chose va amener à une explosion. On a besoin de la discipline du Seigneur. Et comment allons-nous apprendre cela sans cet environnement, sans ces difficultés? Comment va-t-on apprendre la patience? Comment va-t-on apprendre l'endurance, pardon? Comment va-t-on apprendre à laisser toutes ces choses de côté et apprendre à garder notre bouche fermée? On ferme juste nos lèvres, on les garde fermées. Qu'en est-il de cela? Au lieu de l'ouvrir très largement et les gens voient jusqu'au fond de ta gorge. C'est comme quand Mercedes aboie, elle ouvre tellement grand la bouche que t'as l'impression, enfin la gueule, que t'as l'impression qu'elle va pouvoir t'avaler. Tu la vois jusqu'au fond de la gorge. Mais non, on doit avoir la magnifique humanité de Christ. C'est pas juste la connaissance. Oh, j'ai Christ, son humanité parfaite. Oui, il est parfait, mais toi tu ne l'es pas et moi non plus. Alors je dois employer ces opportunités. Maintenant, il est temps d'employer cette opportunité. Aujourd'hui, ne sois pas découragé quand il te châtie. As-tu déjà été corrigé, châtié par Dieu? Quelle est ta réaction? Es-tu découragé? Où est-il écrit que la parole va te châtier, te corriger? On trouve ça dans 2 Timothée 3. Le frère s'appelle Timothée, quel bon rappel. Il dit dans 2 Timothée que la parole va nous entraîner, nous corriger, pour que l'expression de Dieu soit parfaite. La parole va t'exposer, mais de manière à te sauver. C'est pas bon pour moi sinon. C'est 2 Timothée 3, 16 à 17. Donc ne sois pas découragé quand Dieu te châtie. Tu devrais dire quand tu es châtié. Merci maman. Merci papa. On devrait apprendre à dire merci. Parce que c'est bon pour toi. On devrait dire merci Seigneur Jésus. C'est une magnifique opportunité de te gagner et d'être perfectionné pour atteindre le but. Mon fils, il dit, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Ne sois pas découragé, car le Seigneur châtie celui qu'il aime. On a besoin d'apprendre cela. Et ceux qui doivent châtier, apprenez à le faire avec amour. Ne le faites pas avec colère, mais faites-le avec amour, c'est plus efficace. Au lieu de juste pointer, toi tu vas jamais apprendre, c'est pas bon. Et si tu fais ça, je crois pas que tu vas accepter mes remarques, mais je pense que tu vas juste réagir de la même manière. De la même manière que notre Père Céleste le fait. Mais ceux qui sont châtiés, on doit réaliser. Quand il nous châtie, on doit réaliser qu'il le fait parce que il nous aime. Qui d'autre s'occupe de toi si bien? Tes amis à l'école? Est-ce que tu crois vraiment que c'est eux qui vont te châtier? Ne sois pas découragé. Et ne méprise pas son châtiment, car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qui reconnaissent pour ses fils. Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Verset 7. Chacun connaît ce verset. Mais personne ne l'aime. En particulier ceux qui sont châtiés. On préfère être exempt. Mais ce n'est pas l'amour du Seigneur d'être exempt. Au contraire, son amour va te dire la vérité. Dire la vérité dans l'amour. Vous vous rappelez de ce verset? Dire la vérité dans l'amour. Quelle bonne phrase. Si tu endures le châtiment, c'est que Dieu te traite comme un fils. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas si vous êtes exempt du châtiment auquel tous sont part? Tous les enfants de Dieu on part au châtiment. Loue le Seigneur parce qu'il t'aime. Amen, parce qu'il nous aime. Si vous êtes exempt de ce châtiment, alors vous êtes des enfants illégitimes. Verset 8. Et non des fils. Vous êtes des enfants illégitimes. Et non des fils. Je ne châtie pas les enfants des autres. Est-ce que toi tu le fais? Mais par contre, avec les miens, je vais les corriger. De même que nous avons nos pères humains. Puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés. Vous vous souvenez de Malachie, si je suis votre père? Où est l'honneur et le respect? Où est mon honneur et mon respect? Apprenez à respecter vos parents, à les aimer. Il est bon de respecter. Ne devrions-nous pas bien plus nous soumettre au Père des esprits afin que nous ayons la vie? Nous allons grandir dans la vie. Nous allons arriver à maturité dans la vie, dans notre vie. Crois-tu que tu puisses atteindre la maturité sans châtiment? Moi non plus. On a tous besoin du châtiment. Nos pères nous châtiaient pour un peu de jours, verset 10, comme ils le trouvaient Dieu. Bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, c'est pour notre profit qu'il nous châtie, afin que nous participions à sa sainteté. Amen, parce que Dieu est saint, c'est sa nature. Nous sommes ses enfants pour être comme lui. Amen, soyez saints. Pierre écrit dans 1 Pierre, soyez saints. Car je suis saint. Notre Père est saint. Si je suis d'Asie, mes enfants ne vont pas soudainement avoir une autre nationalité. Ou bien je suis un homme et mes enfants sont des singes. Est-ce que tu crois que c'est possible? C'est pas possible. Les enfants ont toujours la même nature que les parents. Nous sommes nés de Dieu. Nous sommes nés de nouveau. Comme nous sommes disciplinés par lui, il va aussi nous changer à son image. Nous allons être saints comme il est saint. Et nous avons besoin d'être parfaits comme il est parfait. C'est pour ça qu'il nous dit que nous avons besoin de vivre le principe élémentaire de Dieu et d'atteindre la maturité. C'est la fondation. Mais là maintenant, on a besoin d'une telle foi dont il est question dans Hébreux 11. Ça, c'est une foi mature. Croire en l'existence de Dieu, c'est bien, c'est la fondation. C'est les principes élémentaires de la parole de Dieu. Mais maintenant, en arrivant au chapitre 11, on voit une telle foi magnifique. On a même les exemples pour ne pas le rater. Et là, on a les exemples de... On voit même l'exemple de Christ, comment il est arrivé au but. Est-ce que tu crois qu'il n'a pas eu des souffrances? Il en a eu plus que nous tous. On sait, il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Quand tu subis un châtiment, en général, t'as plutôt quelques larmes que de la joie. C'est normal. Ça veut dire que c'est ton expérience. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. C'est vraiment des mots parfaits. Si on y prête attention, on peut vraiment apprendre beaucoup. C'est un entraînement pour nous. Ça entraîne notre caractère. Ça nous apprend à nous tourner vers lui pour gagner l'humanité du Seigneur. Sans tous ces problèmes, je crois que beaucoup d'entre nous, on peut témoigner que sans tous ces problèmes, on n'expérimente pas grand-chose de l'humanité du Seigneur. Mais par les problèmes, on expérimente en fait ce pain qui est descendu du ciel. Ça, c'est le véritable chemin pour y arriver. Mais sinon, on dit, oh non, j'aime pas manger ça, j'aime pas manger ça. J'ai souvent entendu de telles choses. Oui, le Seigneur. C'est pour que ça produise un fruit paisible de justice. La paix et la justice sont des jumelles, si on peut dire. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Pas de paix, pas de justice. Pas de justice, pas de paix. Et on a besoin d'être entraîné. Fortifiez donc vos mains languissantes. T'as déjà vu des mains languissantes après avoir beaucoup travaillé et tes genoux sont affaiblis, ils se plient. On ne devrait pas être ainsi. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Plutôt soit guéri, dit en anglais. Ensuite, recherchez la paix avec tous. Recherchez la paix avec tous. Si on a la paix, ça veut dire qu'on a du self-control. Ça veut dire qu'on va avoir la paix qui règne vraiment dans nos cœurs. Est-ce que t'as pas envie d'avoir l'offrande de paix? Christ est notre paix. La paix. Paix et la sanctification. On doit désirer être saint, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Est-ce que tu as envie de le voir? Comment? Avec tes yeux physiques? Non, c'est avec tes yeux intérieurs. C'est très étrange. On a tous une oreille interne. Ça, c'est les oreilles externes qu'on voit, juste le pavillon. Mais on a besoin d'entendre avec nos oreilles spirituelles internes et de voir avec nos yeux, les yeux de notre cœur. On a deux paires d'yeux. Je ne veux pas dire deux yeux, mais deux paires. Une est un peu défectueuse et j'ai besoin de lunettes. Mais on a deux paires. Il y en a deux là. plus une paire dans nos cœurs. Une paire ici sur mon visage et une paire là-dedans, dans mon cœur. Comment veux-tu être aveugle de la paire d'yeux qui est sur ton visage? Je suis contente de porter des lunettes, mais qu'en est-il de tes yeux internes? Seigneur a dit, ils ont des yeux mais ils ne voient pas. Parce qu'ils voyaient seulement l'extérieur, mais ils ne voyaient pas la réalité. Ils ont des oreilles et ils n'entendent pas. Ne soyez pas ainsi. Je suis heureux qu'on ait deux oreilles pour entendre les bruits, les sons externes. Mais j'espère que nous avons aussi des yeux internes pour entendre ce que dit l'Esprit. Dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Regardons attentivement. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Verset 15. On a besoin de ne pas se priver de la grâce de Dieu et de vraiment l'appliquer. Si on ne l'applique pas, c'est qu'on s'en prive en fait. Et si on ne l'applique pas, alors les racines d'amertume vont venir. Et après, on est juste amer. Dieu ne m'aide pas. Il ne m'écoute pas. Pourquoi est-ce que tu ne demandes pas? Pourquoi toi, tu ne l'écoutes pas? Tu te plains qu'il ne t'écoute pas, mais en fait, toi-même, tu ne l'écoutes pas. Racines d'amertume. Peut-être qu'on les remarque pas tout de suite parce qu'elles commencent très petites. Alors, on croit que c'est bon. Mais chaque racine croît. Et c'est dur de les voir parce qu'elles sont sous terre. Mais si des racines d'amertume poussent dans ton cœur, alors ta foi va disparaître petit à petit. Et au contraire, ton amertume va grandir petit à petit. À la fin même, tu t'en fiches de Dieu. Ne laisse pas une telle chose arriver dans ton cœur. C'est pas bon. Et ensuite, ça cause du trouble. Pourtant, des rejetons ne produisent du trouble. Toujours verset 15. Dans ta famille, partout. Et que plusieurs n'en soient infectés. Ça veut dire qu'un tel comportement va influencer les autres. Nous ne voulons pas être ainsi. C'est un avertissement ici. Et même pire. À ce qu'il n'y ait ni débauché. Ça veut dire que la chair s'exprime. Tu aimes faire tout ce que ta chair te dit et tu n'as aucune force pour le combattre. Et même pire, ça continue. Ni profane comme Ésaü. Qu'est-il arrivé à Ésaü? Il a vendu son droit d'aînesse. Le droit d'aînesse est très important. Tu t'en fiches de ton droit d'aînesse? Est-ce que tu es le premier-né ou tu es juste dans ta famille? Tu es le deuxième dans ta famille physique, mais en tant que fils de Dieu, spirituellement. Tu es quoi? Tu es le millième ou tu es aussi le premier-né? Qu'en est-il? Comment est-ce possible? Parce que tu as été baptisé en lui et tu es devenu un en lui et lui en toi. Tu as pris part par ton baptême à son droit d'aînesse. Parce que tu es ressuscité en lui. Ta main entière Bien, il y a un bout qui ne t'appartient plus. Non, tu as été baptisé en entier en Christ. C'est pourquoi Sion est appelé la maison des premiers-nés. Es-tu le premier-né, le deuxième, le troisième? Mais dans l'Église, nous sommes tous participants de ce droit d'aînesse. C'est pour ça que nous pouvons être un roi et hériter, prendre part à cet héritage. On a même une double portion si on atteint le but à la deuxième venue du Seigneur. Mais sinon, on va perdre notre héritage, cette portion, seulement cette portion-là, juste les 1000 ans. Tu peux pas perdre ton salut. Mais tu peux perdre ton droit d'aînesse si tu vends ton droit d'aînesse. Et peu importe ce que tu payes pour ton droit d'aînesse, pour vendre ton droit d'aînesse, ça n'en vaut pas la peine. Ésaü a méprisé son droit d'aînesse et l'a vendu à son frère Jacob. Ne fais pas une telle chose. Vous savez, verset 17, que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté. C'est pas bon. C'est un avertissement. C'est vraiment un avertissement très sérieux. C'est pourquoi que la foi nous amène tout le long du chemin jusqu'au but. C'est vraiment important. Courir cette course, ne pas être découragé. Ne laisse pas tes mains être languissantes comme un gorille. A les mains qui pendouillent à côté de lui. On doit saisir cette vie, la tenir en un seul, en Christ, et courir la course avec endurance. Et nous allons tous atteindre ce but par la foi magnifique. On va arrêter là pour cette partie et on continuera dans la deuxième partie. Et si on regarde dans le résumé, point 2H, ces hommes ont reçu un bon témoignage mais n'ont pas obtenu l'accomplissement de ce qui leur était promis. Quelles sont ces promesses? Concernant la première et la seconde venue du Messie, le roi sauveur, Pierre dit que les prophètes cherchent pour le temps où le Messie allait venir. Ils l'ont vu de loin. Ils l'ont décrit, c'est décrit dans Zacharie. Ils l'ont salué de loin, mais ils ne l'ont pas vu. Est-ce qu'ils l'ont raté? Non, ils savaient, ils l'ont vu de loin. Et sa deuxième venue est encore plus grande. Et c'est bon. Parce que dans sa deuxième venue, ses témoins prendront part à cela. Avec nous, si on atteint ce but. Point 2H2. La meilleure alliance. Il y avait déjà une alliance, mais la nouvelle, elle est meilleure. La loi, heureusement maintenant, est écrite dans ton cœur, parce que sinon tu devrais trimballer deux tables de pierre sur lesquelles elle soit écrite. Mais maintenant, elle est écrite sur nos cœurs. Il dit, j'écrirai mes lois en vous. Et ça, en fait, c'est l'esprit. Et dans votre intelligence, pour ne pas l'oublier. Pour qu'elle devienne une part de notre nature. La Jérusalem céleste. Comment allons-nous l'atteindre? Amen. Nous avons maintenant de plus en plus un goût véritable de la Nouvelle Jérusalem, parce que nous sommes en train de bâtir cette cité céleste. Nous sommes venus au Mont Sion. Amen. C'est ça suffit pour ce soir. Et bien d'autres. Il y a encore beaucoup d'autres choses. Nous sommes vraiment dans une meilleures conditions et positions aujourd'hui. Nous avons besoin d'être reconnaissants. Amen. On peut s'arrêter là. On peut avoir quelques prières. Continue ton œuvre de perfectionnement. Amen. Que nous soyons prêts et qualifiés pour ton retour proche. Nous prions que la parole de ce soir nous encourage chacun. Chacun de nous, là où nous sommes. Merci pour la parole d'encouragement dans Hébreux.